Eh bien, bonjour. Et puis, bienvenue aussi aux autres personnes qui nous visitent ce matin, et pas seulement ceux qui viennent du Québec. Mais nous sommes très heureux d'être ensemble, comme tous les dimanches, pour adorer notre Dieu. Et que nous venions de loin ou de près, c'est vrai que c'est un privilège de se reconnaître comme enfants de Dieu, comme frères et sœurs en Jésus-Christ, de cousins éloignés. Que nous étions ou que nous sommes devenus frères et sœurs en Jésus-Christ. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Je rappellerai tout à l'heure, dans un instant, le contexte de ces sept versets que nous allons lire, mais je peux déjà dire que ce récit se situe au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait donc bien des années et bien de l'eau qui a coulé sous les ponts de Villefranche ou des environs, et même de Trois-Rivières. Deux Rois, chapitre 4, nous lisons donc les sept premiers versets, et nous sommes sous le ministère, on pourrait dire comme cela, du prophète Élisée, qui a succédé au prophète Élie. Deux grands prophètes de Dieu. Élie était quand même extraordinaire. Il n'a pas connu la mort, il a été emporté au ciel sur un char de feu. Et Élisée lui a succédé. Pas dans le char de feu, hein, mais dans le ministère de prophète. Donc, Deux Rois, chapitre 4, nous lisons ceci. Une femme, parmi celles des fils des prophètes, cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va demander au dehors des récipients, chez tous tes voisins, des récipients vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients. Et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Quand on lit un texte comme celui-ci, on se dit « mais c'est extraordinaire, c'est incroyable et improbable que cela se réalise pour nous aujourd'hui. » Et pourtant, il s'agit de l'intervention de Dieu dans la vie d'une pauvre veuve poursuivie par ses créanciers. Et en tant que tel, ce récit est un puissant encouragement pour ceux qui prient que Dieu réponde à leurs difficultés. Car des difficultés, il y en a toujours, de toutes sortes, plus ou moins grandes. Et souvent, nous sommes démunis face à des situations qui semblent sans issue. Le deuxième livre des Rois commence par une situation tragique. Le roi qui s'appelle Ahazia tombe par le treillis de sa chambre haute et il se blesse grièvement. Accident, c'est bête, c'est arrivé, que va-t-il faire? Se sentant perdu, il envoie des messagers consulter le dieu Baal-Zébub. Nous sommes en Israël. C'est un roi d'Israël. Et ce Baal-Zébub était une divinité adorée au Proche-Orient, une divinité païenne qu'adorait Ahazia, le roi d'Israël. Et quand je dis le roi d'Israël, j'entends par là le roi d'un pays qui a reçu une connaissance précise du seul vrai Dieu qui s'est révélé à lui au travers de ses ancêtres, de ses pères et de la loi qu'il a laissée à son peuple. Mais ces messagers n'ont pas bien le temps d'aller loin. Ils sont arrêtés par un homme qui leur délivre une parole de Dieu à transmettre à leur roi, et cette parole, c'est celle-ci. « Ainsi parle l'Éternel, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zébub ?» Et le verbe « consulter » se trouve dans bien des situations de détresse, dans notre propre vocabulaire. Quand nous n'allons pas bien, nous allons voir notre médecin qui a des heures de consultation à son cabinet. En cas de problème, on consulte des experts. Et les gouvernements font des consultations populaires quand ils deviennent impopulaires, pour se rendre populaires. Alors, qui consultez-vous en cas de problème ? Si notre maison brûle ou si elle est envahie par les eaux, on consulte son assureur. Quand on ne va pas bien, on consulte son médecin, c'est même recommandé. Mais n'y a-t-il pas de Dieu dans notre pays ? Et nos Baal-Zébub modernes existent aussi. Ce sont tous ceux qui prennent la place de Dieu dans notre société, ceux sur qui nous nous appuyons exclusivement. Alors ça peut être effectivement les experts, les assurances, les médecins, la science. Dans une société qui se définit souvent comme n'ayant pas besoin de Dieu. Mais n'y a-t-il pas de Dieu dans notre pays ? C'est dans une période sombre, noire, sur le plan spirituel, que Dieu avait envoyé deux prophètes dans son peuple d'Israël, Élie et Élisée. Élie a exercé son ministère sous le règne d'un roi épouvantable, Akab, et il faut ajouter sa femme tout aussi épouvantable sur le plan spirituel que lui, Jézabel. Akab a cherché à éradiquer toute trace de fidélité au Seigneur. Et Élisée, son successeur, a exercé son ministère sous Ahazia, le fils d'Akab. Et je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait envoyé ces deux grands, puissants prophètes dans une période où il avait été complètement mis de côté, tout du moins par les autorités, si ce n'est par tout le peuple ou la majorité d'Israël. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Élie et Élisée ont accompli des miracles extraordinaires, comme si Dieu montrait par là qu'il aimait toujours son peuple et qu'il était le seul vrai Dieu qui puisse faire ces miracles extraordinaires. Mais c'est aussi une période où Dieu a exercé ses jugements à l'encontre de son peuple rebelle. Plus de 3 ans et demi sans pluie. C'est le commencement du ministère d'Élie. Il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner au niveau des cultures, du bétail ou des gens. 3 ans sans pluie dans un pays plutôt chaud. Et c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir, humainement parlant, que Dieu délivre, qu'il sauve, qu'il redonne vie. Et ainsi en témoigne notre récit. Une pauvre veuve, bien démunie, harcelée par ses créanciers, les voit la menacer de s'emparer de ses enfants pour en faire ses esclaves. La loi autorisait, la loi d'Israël autorisait à vendre ses enfants pour payer une dette, mais elle assortissait l'esclavage d'un certain nombre de garde-fous. Ce n'était pas un esclavage non plus pour toujours. Hein. C'était le temps de donner une force de travail qui puisse aux créanciers de récupérer son argent. Mais les créanciers outrepassaient souvent leurs droits et agissaient de manière inhumaine. Et la situation de cette veuve était d'autant plus intolérable qu'elle faisait partie, alors elle ou son mari, selon les traductions, des fils des prophètes, c'est-à-dire d'une école dont Élie et Élisée, entre autres, étaient les maîtres, maîtres au sens de maître d'école. Au milieu d'un peuple idolâtre, rebelle au Seigneur, il y avait donc des écoles ou des instituts bibliques qui profitaient de l'enseignement de ces deux grands hommes de Dieu qu'étaient Élie et Élisée. Oui, au milieu d'un peuple qui abandonnait Dieu, il y avait aussi un peuple fidèle, un reste fidèle qui servait le Seigneur. Et ces écoles étaient comme des lumières qui rappelaient l'amour, la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Alors cette femme ne comprend pas pourquoi elle, qui était restée fidèle au Seigneur, se retrouve dans une situation de désespoir. Et effectivement, souvent, en tant que chrétien, on peut se dire, mais pourquoi, Seigneur, moi qui te suis fidèle, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Pourquoi tu me laisses dans cette situation de désespoir? C'est comme si elle disait, mon mari et moi, nous étions au service du Seigneur et voici ce qui nous arrive. Mais Dieu n'a jamais épargné ses serviteurs, mais il leur promet son aide. Elle va exposer son cas à son pasteur. Elle crie vers Élisée, nous dit le texte. Alors si vous venez exposer votre problème à votre pasteur, de grâce, ne criez pas. Il n'est pas sourd, du moins pas encore. Il peut très bien entendre une parole qui n'est pas forcément criée. Mais mon expérience montre que la plupart des gens ne veulent pas exposer leurs problèmes à leur pasteur. Ils croient que cela ne sert à rien, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, ou qu'ils ne veulent pas entendre les conseils d'un pasteur. Autrement dit, ils ne veulent pas chercher une solution du côté de Dieu. Ils préfèrent leur propre solution, se débrouiller tout seuls. Tel n'était pas le cas de cette femme avec son mari. Il craignait l'Éternel, c'est-à-dire qu'il voulait avant tout se soumettre à sa parole. Le mot craindre Dieu veut dire respecter Dieu, adorer Dieu, obéir à Dieu. Voilà, ce sont des synonymes. Mais notre pauvre femme était à bout, veuve, privée de son mari, criblée de dettes, privée de ses enfants, n'ayant plus de quoi se nourrir, elle n'en pouvait plus de vivre. Pourtant, Élisée ne désespère pas. « Que puis-je faire pour toi ?» lui demande-t-il. Jésus aussi, parfois, posait ce genre de questions qui nous semblent parfois inutiles, superflues. C'est un aveugle qui vient vers Jésus et qui dit « Jésus, fils de David !» Et Jésus lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Même me redonner la vue. C'est évident, évidemment. Il vient vers Jésus, il crie à Jésus pour cela. Mais Jésus veut que les personnes expriment leurs besoins à lui, à Dieu. Que puis-je faire pour toi? Que te reste-t-il à la maison? Et cela me fait penser à la multiplication des pains. Miracle que Jésus a accompli, vous vous souvenez? Donnez-leur vous-même à manger à cette foule qui était là, réunie dans la campagne, loin des commerces Et il n'y avait pas de supermarché à cette époque. « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, répondent les disciples à Jésus. C'est dérisoire. Veux-tu que nous allions acheter du pain ? C'est-à-dire, on viendra dans 2 jours. » Dérisoire au vu de la foule qu'il faut nourrir. Tout comme ce flacon d'huile qui ne peut la nourrir suffisamment. Mais Dieu ne s'arrête pas à de telles considérations. Lui qui a créé la terre, le monde, à partir de rien, tout ce qui s'y trouve, de rien ou de peu, il peut faire beaucoup. Alors Élisée va lui demander à cette femme, j'allais dire 2 démarches. Une démarche sociale et un acte de foi. La démarche sociale, c'est d'aller chez ses voisins ou ses voisines pour demander des récipients. Inévitablement, il me semble, si elle va frapper à la porte de ses voisines en leur disant « mais donnez-moi, prêtez-moi plutôt des récipients », mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu vas faire de ces récipients ? Tu n'as rien. Ou aurais-tu reçu un arrivage de quelque chose ? Voilà. Donc la conversation s'engage et il me semble qu'elle sera obligée de répondre. Je fais comme le prophète Élisée m'a demandé de faire. Je me soumets à sa parole. Et son acte de foi débute lorsqu'elle va frapper à la porte de ses voisins. N'en demande pas un petit nombre, a-t-il précisé. Autrement dit, va chez beaucoup de voisins. Ne te contente pas d'aller chez le voisin de droite et de gauche, mais fais tout au moins toute la rue. Ne cache pas ta souffrance ou ton problème. Car souvent, quand on a un problème, quand on souffre, on a plutôt tendance à se refermer sur soi, à le cacher aux autres et ne pas le dire à ses voisins ou à ses frères et sœurs ou à son pasteur. Aux responsables de l'Église. Mais ne cache pas non plus la foi que tu mets en Dieu. Parce qu'inévitablement, les voisins vont dire « mais pourquoi faire ?» Si tu vas chez tes voisins, c'est que tu crois que Dieu va te délivrer de ta peine et que la réponse de Dieu sera à la mesure de sa grandeur. N'en demande pas un petit nombre. Vous connaissez cette phrase de ce grand homme de Dieu qui était Augustin, qu'on appelle aussi Saint Augustin, qui a vécu au 5e siècle en Afrique du Nord. Aujourd'hui, il serait tunisien. Il a dit ceci, la mesure de l'amour, c'est, quelqu'un connaît la suite ? C'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Tel est l'amour de Dieu à notre égard, un amour sans mesure. Et alors que la veuve doit expliquer pourquoi elle va chercher des récipients chez ses voisins, il faut qu'elle s'enferme. En tout cas, le prophète lui dit « enferme-toi ensuite ». Dans ta chambre, dans ta pièce, avec tes fils, pour les remplir. Et le texte nous dit, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et cela me fait penser à une autre parole du Nouveau Testament. Vous savez, quand parfois il y a des connexions comme cela qui se passent, on lit un verset, puis ah tiens, telle phrase ou tel mot, ça nous fait penser à telle autre phrase, et on fait le lien, et c'est formidable. La parole de Dieu forme un tout, elle se tient ensemble. Alors, il y a cette autre parole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, juste avant la prière du Notre Père, quand Jésus dit, lorsque vous priez, hein, « Toi, quand tu pries, voilà le texte exact, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vous lis dans la traduction du Semeur, la Bible du Semeur. C'est pareil, mais c'est dit un peu différemment. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Deux fois, Jésus utilise le mot « secret ». Alors il y a des pièces, ou plutôt il y a des prières secrètes que Dieu seul entend. Et Jésus nous donne l'assurance que non seulement Dieu les entend, mais qu'il y répond, qu'il nous le rendra, c'est-à-dire qu'il nous récompensera de notre prière, de notre demande à Dieu. Et le lieu secret, probablement une pièce retirée, où l'on se disait des secrets loin des oreilles indiscrètes, c'est celui de la communion avec Dieu, celui aussi de l'attente de sa réponse. Et Jésus dit que Dieu est dans le lieu secret, que Dieu voit dans le lieu secret, et que Dieu te le rendra, te récompensera, là, dans le lieu secret. C'est le miracle de la prière. C'est un miracle. Pourquoi ça marche? On ne peut pas l'expliquer, mais ça marche. Dieu n'a pas besoin de notre prière. C'est dit aussi dans Matthieu 6, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Alors, bien sûr, la question qui nous vient sur le bout des lèvres, alors à quoi ça sert de prier? Pourquoi demander? Mais Dieu se plaît à ce que nous le lui demandions dans le lieu secret, dans le secret de notre cœur, mais aussi, bien sûr, en ayant parlé, et donc dans la communion avec ceux qui peuvent prier aussi le Seigneur avec nous. Notre veuve, qui s'était conformée à la parole du prophète de Dieu, n'a pas été déçue. L'huile s'est arrêtée de couler lorsque son dernier récipient a été rempli. Sans doute le texte laisse-t-il suggérer que si elle avait eu davantage de récipients, l'huile aurait continué de couler, mais ça s'est arrêté parce qu'elle n'avait pas d'autres. Mais de toute façon, il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Elle ne pouvait pas en mettre au-delà d'un certain nombre dans sa pièce. Et puis le texte nous dit qu'elle en avait suffisamment. Et ça, c'est formidable parce que je crois que c'est un principe de Dieu. Dieu ne nous donne jamais au-delà de nos besoins, mais toujours selon notre nécessaire. C'est comme la manne dans le désert, quand le peuple était 40 ans dans le désert. Il y en avait suffisamment pour la journée, mais tous les jours, il y en avait suffisamment pour la journée et pas au-delà. Alors le texte nous dit qu'elle en avait suffisamment de cette huile pour répondre à son besoin de rembourser son créancier, et suffisamment aussi pour pouvoir vivre, elle et ses deux fils. Dieu avait pourvu à son besoin, mais pas au-delà. Par ce miracle de l'amour et de la grâce de Dieu, Dieu lui a permis de vivre avec ses fils, a empêché que ses fils lui soient pris, sans être sous la menace d'une réquisition. Alors il lui reste encore un acte de foi ou un acte d'obéissance à accomplir pour qu'elle s'en sorte vraiment. Va vendre cette huile. Cela demande un travail, un effort, un contact avec d'autres personnes, peut-être sur la place du marché. Après s'être enfermé dans le secret. Après le secret de la prière, c'est le temps de l'action. Et la vie avec Dieu est faite de prière, de communion avec Dieu dans le secret, mais aussi de relations avec les autres, avec les frères et sœurs, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Et ce sont eux qui vont donner l'argent nécessaire à cette femme pour qu'elle rembourse sa dette. Mais je suis sûr qu'en vendant son huile sur la place du marché, elle avait le sourire sur les lèvres, une joie au fond d'elle-même. Et elle se disait, tout en vendant cette huile, « Merci, mon Dieu, d'avoir répondu à mon besoin, de me permettre d'être délivrée de mon problème insoluble. » Psaume 68, verset 21, nous dit « Dieu est le Dieu des délivrances » ou dans d'autres versions « le Dieu de mon salut ». Car l'Éternel, le Seigneur, peut nous sauver de la mort. La mort, c'est ce qu'il y a de, je dirais, d'extrême. C'est l'ultime délivrance, c'est d'être sauvé de la mort. Personne ne peut sauver de la mort, même pas les médecins, et encore moins les banquiers. Mais Dieu sauve même de la mort. Et les dernières paroles d'Élisée sont lourdes de sens. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Elle en a donc eu suffisamment, après avoir remboursé ses dettes, pour vivre. Telle est la générosité de Dieu à son égard. Et cela me fait encore penser à cette multiplication des pains, où avec 2 pains et 5 poissons, le Seigneur a nourri une foule considérable, et il en restait encore 12 paniers pleins de restes. Alors qu'ont-ils fait, les disciples, avec ces restes? L'ont-ils jeté à la poubelle? Non, certainement pas. Certainement pas. Ben, c'est un petit peu comme un lendemain de mariage ou un lendemain de fête. Il y a des restes. Alors on s'est réunis avec la famille ou avec ses amis et puis on mange ces restes, mais ce sont quand même des restes extraordinaires, hein? Ils ont mangé, je pense, les restes tout en pensant à cette fête extraordinaire qu'a été cette multiplication des pains du Seigneur. Et sans doute qu'en mangeant ces restes, ils ont loué Dieu pour ce si grand miracle. Comme notre veuve qui, en allant puiser l'huile qui lui restait pour faire ses gâteaux et ses pains, pensait sans doute à la grande délivrance que Dieu lui avait accordée. Alors je conclus, ce sera très court. Nous avons chanté tout à l'heure que Dieu était notre ami, un ami proche, un ami à qui on peut tout confier, un ami qui se trouve à nos côtés, qui nous connaît, qui nous entend, qui est là dans le secret de notre cœur. Est-ce que nous connaissons Dieu comme le Dieu des bénédictions, des délivrances qui vient à notre secret, qui vient à notre secours? Est-ce que nous le prions dans le lieu secret? Pas forcément une chambre retirée de notre maison ou notre appartement, dans le secret de notre cœur. Est-ce que nous avons cette foi que Dieu peut répondre à notre besoin? Est-il le Dieu des miracles qui vient à notre secours? Alors sans doute cette pauvre veuve aurait pu dire à Dieu, « Mais Seigneur, tu aurais pu faire que mon mari ne meure pas. Il était fils des prophètes. Pourquoi as-tu permis qu'il meure? S'il n'était pas mort, il aurait continué à travailler. S'il n'était pas mort, on n'aurait pas eu ce problème de créancier à nos trousses. Tu aurais pu faire ce miracle, qu'il vive. » Oui, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a permis que son mari meure et qu'elle se retrouve veuve et donc démunie. Mais en revanche, il est venu à son secours, qui ne s'attendait certainement pas à ce genre de délivrance. Elle a crié vers Élisée et l'Éternel lui a répondu par l'intermédiaire de son porte-parole. Le mot prophète, ça veut dire porte-parole. Et Dieu, dans sa grâce, a répondu aux besoins de cette pauvre femme. Elle s'est soumise à la parole de Dieu et elle a pu être délivré de sa misère, louer Dieu, le connaître vraiment comme un ami qui vient à son secours. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas de prophète Élisée, j'allais dire, sous la main, mais nous avons la parole de Dieu, nous avons le Seigneur qui est vivant, nous avons les conseils d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu aussi, nous avons la prière, mais nous avons le même Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je termine avec cet autre verset de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, c'est-à-dire hier comme aujourd'hui et demain, si le Seigneur ne revient pas, au siècle des siècles, jusqu'à la fin des siècles, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. »